Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Nous commémorons cette année deux pages sombres de l'histoire russe du XXe siècle. Tout d'abord, le 70e anniversaire des procès de Moscou, mais aussi le fameux discours en 1956 de Nikita Khrouchtchev, un discours prononcé à l'occasion du 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique, un discours dénonçant en partie les crimes de Staline, les souffrances, les morts, l'épuration, mais aussi le culte de la personnalité, le culte d'un homme qui, pendant un quart de siècle, créa une amnésie collective. Car sous Staline, la société n'était qu'entre guillemets qu'un univers radieux où la critique n'avait guère de place et où l'ennemi du peuple mourait dans le silence d'une société tout à la fois effrayée et manipulée. Comment, une fois le petit père des peuples disparu, comment déstaliniser la société, comment revenir à une société en phase avec les réalités politiques, économiques et sociales? Dans cette entreprise, quel rôle joua Nikita Khrouchtchev? La date de 1956 fut-elle une rupture dans les crimes du communisme ou bien simplement une intuition géniale permettant au régime de rester en place? C'est ce que je vous propose de découvrir avec vous aujourd'hui. Hélène Carrère d'Encausse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. C'est la deuxième fois que je vous reçois au micro d'Un jour dans l'histoire. Nos auditeurs peuvent se reporter à l'émission sur votre livre « L'Empire de Razie, une histoire de l'Empire russe de 1552 à nos jours » paru chez Fayard. Cette émission est disponible dans la médiathèque de Canal Académie. Vous venez de rééditer aux éditions Complexes un ouvrage qui est sorti pour la première fois en 1984. L'Union soviétique était toujours debout, chancelante, mais toujours debout. Cet ouvrage s'intitule « 1956, la deuxième mort de Staline ». Alors, vous avez écrit une postface récemment à cet ouvrage, à cette réédition, et vous écrivez dans cette postface que le rapport de Khrouchtchev a été largement dépassé, notamment par les nombreuses publications, les nombreuses recherches sur les ravages du stalinisme, mais vous dites parallèlement qu'en Russie, le souvenir de 1956 n'a pas fait l'objet de célébrations importantes, à la différence par exemple des commémorations à Budapest dernièrement. Pourtant, la date de 1956 est une date majeure de la Russie soviétique.
Vous avez raison. Alors, je voudrais revenir sur un point. C'est le fait qu'il n'y ait pas eu véritablement de cérémonie ou de publication importante pour 1956. Il y a quelques mois, je me trouvais, cet hiver, en février-mars 1956, je me trouvais à Moscou. Et il y avait, sur la Place Rouge, au musée d'histoire, une exposition. C'était pas exactement ni le 20e congrès, ni Khrouchtchev, ni rien du tout. Mais dans deux salles, on commémorait tout de même le souvenir du 20e congrès. Il y avait non pas des textes du 20e congrès, car j'ai appris à cette occasion qu'il existe un document de Khrouchtchev, de son discours, c'est pour ça que je le dis ici, annoté de sa main. Et ce document, tout le monde prétend l'avoir vu, et personne ne l'a. Se replacer dans l'atmosphère de l'époque et ne pas essayer de comprendre la situation à la lumière des temps que nous vivons, ni du pays où nous vivons. D'abord, nous vivons dans un pays où les moyens de communication de masse suppriment les frontières, où il est impossible à un individu d'ignorer, s'il veut savoir, ce qui se passe ailleurs. On ne peut enfermer, et aucun État ne peut enfermer ses citoyens dans ses frontières, au moins par l'esprit. Mais en 1953, la télévision débutait, mais elle n'atteignait évidemment pas l'URSS. Les gens n'avaient pas de transistor, ils dépendaient tous de la radio d'État. La presse étrangère ne pénétrait pas. Tout lecteur de n'importe quel journal étranger qui était arrivé avec un voyageur pouvait se faire arrêter immédiatement. Donc, si vous voulez, le soviétique moyen était enfermé dans les frontières du pays et ne savait rien. Il faut se souvenir qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les prisonniers soviétiques sont rentrés d'Allemagne, les prisonniers et les déportés, ils n'étaient pas allés volontairement en Allemagne. Ils ont été aussitôt éloignés de chez eux, expédiés dans des camps ou en tout cas mis dans un isolement total, parce qu'ils avaient vu quelque chose du monde extérieur. Ils avaient vu l'Allemagne ravagée par la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et même de cela, on avait peur. C'est-à-dire qu'il y a une société coupée de toute information et qui ne dépend que de celle qu'elle reçoit. Et celle qu'elle reçoit lui apprend jour après jour que Staline est le plus grand homme de tous les temps. Le seul héritier fidèle de Lénine, car de purge en purge. Tous les compagnons de Lénine ont été éliminés et on apprend à la société qu'ils ont été éliminés parce qu'ils étaient des traîtres, parce qu'ils avaient saboté le développement économique du pays, préparé la guerre, trahi le pays, etc. Que le pays est environné de traîtres, que c'est une citadelle assiégée et qu'un seul homme les protège contre le malheur extérieur qui s'appelle Staline. Alors, il y a une sorte de confiance en Staline avec, il faut y mettre des bémols. Le bémol, c'est qu'il y a eu entre-temps la Seconde Guerre mondiale, que la Seconde Guerre mondiale a vu arriver les troupes allemandes aux portes de Moscou et que ça a été abominable. C'est-à-dire que les troupes allemandes avaient l'ordre de transformer en colonie immédiate l'espace dans lequel elle pénétrait et de mettre, pas seulement ou pas, mais de réduire quasiment en esclavage la population soviétique et de la terroriser. Ça a été la grande erreur d'Hitler du point de vue allemand, car il a perdu la guerre là. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il y a eu un doute à ce moment-là sur la sagesse du grand Staline, sur sa capacité à préparer la guerre. Je dirais que le système a été ébranlé, puisqu'on en est à l'ébranlement à 56. Le système a été ébranlé avec l'arrivée des troupes allemandes en territoire soviétique. Première étape. Deuxième étape, avec le sort fait aux anciens prisonniers, aux déportés. Ils avaient des familles, tous ces gens-là. On a bien compris qu'on ne voulait pas qu'ils rentrent en rapport avec la population. Et en même temps, ça a l'air contradictoire, mais une fois encore, ça ne se comprend que dans l'atmosphère d'un pays complètement enfermé. En même temps, il y a une propagande absolument considérable. En même temps, quand on regarde des films de cette époque, des films d'actualité, on le voit très bien, Staline était un remarquable, non pas orateur, mais un remarquable manipulateur. Il savait, je dirais, se présenter comme Hitler d'ailleurs, un homme qui aime les petits-enfants, les petits-enfants se jettent, et c'est pas par hasard qu'il y a ce mythe du meilleur ami des enfants, un homme qui ne veut que le bien de l'humanité, un homme qui est menacé par des complots multiples. C'est-à-dire que dans la conscience collective de la société, personne ne peut partager son sentiment avec son voisin. N'oubliez pas le climat de méfiance collective. C'est-à-dire que, au fond, chacun est seul en face de cette propagande, en face de ces incertitudes. Et c'est ce qui explique que lors de sa disparition, ce que chaque soviétique voit disparaître. C'est le chef suprême dont on se dit qu'il peut très bien déclencher une purge, et en même temps l'homme dont on a peur qu'ils disparaissent. Et vous savez, on comprend très bien ces sentiments, même chez des gens très évolués. Evgenia Ginzburg, qui a écrit un livre magnifique sur le vertige, où elle raconte en deux volumes ce qu'était sa captivité. Elle était la femme d'un dirigeant communiste. Elle était elle-même une personnalité communiste relativement élevée au Tatarstan. Bon, elle a vécu la vie magnifique des responsables communistes jusqu'en 1936. Et le 1er janvier 1936, elle raconte comment, lors de la soirée du Nouvel An, elle était en tenue de bal, on est venu l'arrêter. Elle a été jetée dans un camp et elle y reste jusqu'à la disparition de Staline et au-delà, jusqu'en 1956. Et elle raconte comment cette femme intelligente, qui était universitaire, qui était un haut dignitaire du parti, n'a pas arrêté de penser que, au fond, ça ne peut pas être Staline. On trompe Staline. Il ne sait pas ce qui se passe. Il y a des traîtres autour de lui pour nous faire cela. C'est ça qu'il faut comprendre. Le totalitarisme est un phénomène qu'on ne peut analyser que quand on se trouve à l'intérieur du système et quand il est total, j'emploie le mot délibérément, comme il l'a été en URSS, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun contact avec l'extérieur.
Alors, que vont faire les héritiers de Staline? C'est ce que nous allons voir dans un instant.
Thank you.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Hélène Carrère-Dancausse, auteure du livre 1956, La deuxième mort de Staline. Il s'agit d'une réédition parue aux éditions Complexe. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Hélène Carrère-Dancausse, un mois après la mort de Staline, la Pravda, qui était le journal officiel, publiait une information a priori, dites-vous, anodine, mais qui va bouleverser les systèmes. C'est le soi-disant complot, la dénonciation du soi-disant complot des médecins assassins contre Staline.
Qui n'était pas coupable.
Qui n'était absolument pas coupable. Et tout ce qui avait été dit par les fameux médecins était la conséquence, nous le savions en lisant ce journal, de, je cite, des méthodes illégales d'instruction, autrement dit, de la torture. Et cet article constitue vraiment une rupture, même une double rupture, premièrement, avec l'époque stalinienne, et deuxièmement, avec le terrorisme.
Alors, c'est une double rupture, mais elle reste limitée. Car on ne dit pas qui est responsable de cette affaire. Ce sont les méthodes illégales d'instruction. C'est tout le système stalinien qui a fonctionné comme ça. On dit simplement que ces gens qui ont été exécutés, disons-le au passage, pour la plupart, n'avaient rien fait de mal, ils n'avaient jamais voulu assassiner personne, et qu'on les a torturés, que tout le monde le sait, c'est ça que ça signifie, tout à fait tranquillement pour leur faire avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Alors, c'est un ébranlement formidable parce que ça veut dire, pour toute la société, car il n'y avait pas pratiquement trois soviétiques, on ne pouvait pas compter deux soviétiques, dont un membre de la famille n'avait pas été arrêté, n'avait pas disparu dans les camps depuis le début des purges, depuis le début des années 30, qui n'avait pas un frère, une mère, un cousin dans un camp, s'il avait survécu. Pour chacun, si vous voulez, ça signifiait qu'au fond, peut-être aussi, n'était-il pas coupable.
C'est la première fissure.
C'est la première fissure réelle dans le système. Une fissure qui est extraordinairement brutale, mais qui laisse encore ouverte la question qui a décidé cela ? D'où partaient ces ordres épouvantables ? Staline n'est pas encore en cause. Ce qui est caractéristique, après cet ébranlement de cette année, et je dirais, là il y a une succession de nouveautés qui troublent les citoyens soviétiques sans qu'ils osent encore, d'une part, en tirer des conclusions et surtout partager leurs sentiments avec leurs voisins. Mais, parce qu'une fois encore, partager ses sentiments, ça peut vous conduire dans un camp. Mais tout de même, on commence à, on sait que des choses se modifient dans le système concentrationnaire. D'abord, il y a eu une, deux, trois révoltes dans des camps. Ça, c'est très important. On connaît la plus importante, mais il y en a eu deux, trois au moins, on le sait. Et on sait que ça ne s'est pas terminé tragiquement, que ça s'est terminé, ça c'est la rumeur, le bouche à oreille, qui dit que ça s'est terminé par des négociations. C'est tout à fait nouveau. Par ailleurs, on apprend, à la fois parce que des correspondances peuvent arriver, que le système dans les camps commence à se modifier, quelque peu. Et l'homme qui semble être l'agent de cette transformation, c'est Beria. Ça, c'est le point très important. Et ça, c'est tout le problème de la succession de Staline. Car Staline mort, la question est posée.
Vous parlez de deux groupes. D'un côté, Malenkov et Beria, et de l'autre côté, Khrouchtchev et Bulgamine.
Voilà, c'est le groupe qui est initial. Vous savez qu'à la mort de Staline, il y a eu un spectacle absolument indécent dont la fille de Staline s'est faite l'historienne dans les souvenirs qu'elle a publiés en Occident lorsqu'elle a quitté l'URSS. Elle a raconté que autour du cadavre de Staline dans sa datcha, tous ses compagnons se sont rassemblés, qu'ils ont regardé attentivement pour voir s'il était vraiment mort, avec un air épouvanté. Et que Malenkov, d'une façon absolument indécente, s'est presque mis à danser, enfin esquisser une sorte de danse du scalp autour de lui. Et si je le cite tout de suite, c'est parce qu'il est très clair que Beria, et que cela a fait extraordinairement peur à tous les héritiers potentiels. L'héritier potentiel à ce moment-là semble être l'homme qui s'est dégagé après le 19e congrès, qui a eu lieu en 1952, Staline encore vivant, le dernier congrès de Staline. Vous savez, il n'y a pas eu de congrès du Parti communiste pendant la période de guerre. Et le premier congrès après-guerre se réunit en 1952. Une figure se dégage, c'est Malenkov, un personnage rondouillard, d'apparence effacée, mais qui est un ingénieur, qui est un haut cadre du parti, qui apparaît plutôt comme le technocrate, à cette époque où les technocrates n'étaient pas encore à la mode. Mais se trouve, si vous voulez, aussi en piste dès ce moment-là, Beria, l'homme puissant, l'homme qui détient la clé des camps, une fois encore, l'homme qui a dirigé les services de sécurité, Bulganine et Khrushchev. Et en effet, on a l'impression de deux blocs, c'est-à-dire que Beria a l'air de soutenir Malenkov, ou que les deux s'agrègent, et que Khrushchev, Malenkov est l'homme de l'État, Khrushchev est l'homme, apparaît comme l'homme du parti, véritablement. Tous sont à la tête du parti, mais chacun s'accorde une spécialité. Et Bulganine apparaît comme l'homme qui peut régner sur le tout, qui peut diriger les affaires de l'État sans être l'homme de l'administration. En fait, c'est ce qui réunit ces hommes. Au départ, c'est la peur de Beria et le désir de s'en débarrasser. Et il y a eu un incontestable complot entre eux qui a conduit à l'éviction de Beria dans des conditions qui restent encore, malgré toutes les archives, qui ne restent pas d'une clarté absolue. On n'a jamais su s'il avait été véritablement... Il a été arrêté à l'été 1956. On a annoncé tantôt qu'il était fusillé, après procès, tantôt qu'il avait été tué dans une rixe. Il y a eu, d'après ce que l'on sait, incontestablement un procès. Et il a été exécuté. Mais les conditions de toute cette liquidation restent assez obscures. En tout cas, la situation... à la fin de l'année, au début de l'année 54, s'éclaircissent. Et l'on a une situation qui s'organise de la façon suivante à la veille du 20e congrès. Toute l'année 55 est marquée par les préparatifs du congrès. Parce qu'il faut, dans un congrès communiste, tout de même mettre au clair et la succession, et je dirais un certain programme pour le parti. On a à la fin de l'année 55 une situation où donc Beria liquidé, Malenkov semble être l'homme qui conserve une certaine autorité, mais Khrushchev prend de plus en plus, comme secrétaire du parti, prend de plus en plus d'autorité. Et c'est lui qui va dominer le 20e congrès.
Alors, que se passe-t-il?
Alors, attendez, ce que je veux dire, c'est que l'année 55, à la veille du 20e congrès, est marquée par quelque chose d'intéressant. C'est au fond qu'en 1955, alors que tous les jours, la presse soviétique, depuis 1930, parlait de Staline, elle parle de moins en moins de Staline. Le nom de Staline tient de moins en moins de place dans les journaux. Ce qui aussi, si vous voulez, les citoyens soviétiques sont habitués à regarder les signes, et les membres du parti aussi.
Oui.
Il y a donc manifestement une consigne, tout de même, d'apaisement de la stalinomania, ou du culte de la personnalité. Le 20e congrès s'ouvre. Quand il s'ouvre, a priori, on ne peut pas imaginer qu'il se passera quelque chose d'extraordinaire, rien ne l'annonce. Et en même temps, il a été précédé, dans les premières semaines de l'année 56, par des publications de textes dans les journaux, pas dans les journaux quotidiens, dans les journaux scientifiques, dans les questions d'histoire, dans des journaux qui détiennent des documents. Quand je dis journaux, ça s'appelle des revues, mais en revue, ça s'appelle des journaux. Par des articles, des études sur le sort de la paysannerie au moment de la collectivisation, sur des tas de défaillances ou de difficultés ou de tragédies du système soviétique, sans qu'on puisse encore en tirer la morale. Alors, le congrès s'ouvre.
Combien de personnes qu'on se représente? C'est une réunion à huis clos, c'est bien cela?
Dans la brutalité avec laquelle ils ont été traités, les purges qui leur ont été imposées. Et là, le parti est prêt à l'entente, car il ne faut pas oublier qu'au cours de l'année 55, il y a eu déjà une remise en cause très grave. C'est celle de la rupture avec Tito. Et c'est Khrushchev, et je crois qu'il faut le dire, Khrushchev était allé à Belgrade pour se réconcilier avec Tito. Staline, le grand mot de Staline est connu, je lèverai le petit doigt et Tito sera brisé. Tito n'avait pas du tout été brisé, et il avait fallu l'exclure du communisme véritablement, dire qu'il n'était pas un communiste, et essayer de jeter contre lui l'ensemble du mouvement communiste international, je dirais pour marquer que l'URSS avait raison. Khrushchev était allé en 1955 à Belgrade pour se réconcilier avec Tito, et c'est Khrushchev une fois encore.
Qui fait la démarche, oui.
Oui, comptant tout simplement faire la paix sans y laisser de plumes. Et Tito l'a contraint à des excuses, l'a contraint à dire que Staline avait eu tort, que l'URSS avait voulu imposer son pouvoir à la Yougoslavie, et que tous les partis communistes étaient égaux. On peut dire que dans cette démarche que l'Occident a mal perçue, il y a eu déjà la rupture totale et la reconnaissance de l'égalité des partis communistes, la renonciation par l'URSS à être le pôle du communisme international. Alors, ça c'est un pari qu'avait fait Khrushchev, et ça permet, quand on s'interroge sur la décision du rapport secret, C'est-à-dire, fallait-il ou pas lire un rapport secret ? Qui l'a rédigé ? Ce sont des questions fondamentales pour l'histoire. Ça permet au moins d'accorder une large part à la volonté de Khrushchev. Car il y a eu, on le sait, débat au cours de l'année 55 au sein du parti. Est-ce qu'on n'était pas allé trop loin en Yougoslavie ? Est-ce qu'il fallait maintenir la ligne, au fond, qu'on avait tenue pour éviter une certaine désagrégation du système ? L'histoire yougoslave montrait que c'était facile de le voir se désagréger. Ou bien, est-ce qu'il fallait faire des concessions pour lui rendre vie ? Il est incontestable que Khrushchev a été l'avocat de cette thèse qu'on ne pourrait pas appeler révisionniste, mais qui est certainement une thèse qui prône une certaine adaptation. Vous savez, on aura la même histoire se répétera avec Gorbatchev.
Bien plus tard, oui.
Un demi-siècle plus tard, presque. Alors, quand le rapport secret a été lu, une fois encore, ça explique pourquoi seuls les délégués soviétiques étaient là. Les délégués communistes du monde d'Europe de l'Est avaient évidemment été interdits de séance. Mais après la lecture de ce rapport secret qui a bouleversé dans tous les sens d'ailleurs.
Alors justement, Hélène Carrère-Dancausse, quelles vont être les conséquences de ce discours ? C'est ce que nous allons voir après une seconde pause. À tout de suite.
Sans imposition de la force militaire, on le tolérerait à la Hongrie. Je pense que précisément la menace d'entrer dans le système adverse a été décisive et a conduit l'URSS à écraser militairement la Hongrie à un prix considérable. Le prix payé, c'est d'abord que ça a été vraiment le choc pour une partie des communistes dans le monde qui ont compris que les rapports fraternels entre communistes étaient tout autre chose que des rapports fraternels, que c'était... Au fond, ce qu'on n'avait pas compris en 1945, c'est que le communisme avait été instauré par l'occupation militaire, devenait tout à fait visible aux yeux de tous par l'écrasement de la révolution hongroise. Donc on peut dire que le visage de l'URSS, le visage du communisme change à partir de ce moment-là. En Hongrie, ce n'est plus qu'un régime d'occupation. Et ça discrédite tout à fait le mouvement communiste international et l'URSS.
Mais alors, il y a justement, encore une fois, un paradoxe, parce qu'il y a le début, l'embryon d'une déstalinisation. Mais cette déstalinisation a ses limites.
Alors, elle a ses limites et en même temps, il est clair que d'abord que ça, le pouvoir soviétique en a tiré les conclusions. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas accepter n'importe quoi, qu'il fallait sauver à n'importe quel prix les États communistes. Mais il y a un prix considérable, c'est la rupture avec la Chine, qui se dessine déjà dès ce moment-là et qui, dès 1960... est visible aux yeux de tous.
Vous dites dans votre livre que le grand bond en avant est en quelque sorte une réponse à cette déstalinisation.
C'est la démonstration. Les Chinois ont déclaré qu'ils reprenaient le flambeau que l'URSS avait laissé tomber. C'est-à-dire que pour les Chinois, c'est Khrushchev. Ça n'est pas Staline qui était infidèle, moi, dans leur phraséologie. Car ils n'avaient aucune reconnaissance à avoir envers Staline qui avait empêché la révolution chinoise de triompher pendant très longtemps. Mais le régime chinois... Mao n'accepte pas l'affaiblissement du communisme dont ils tiennent Khrushchev pour responsable et ils considèrent que à partir de ce moment-là, c'est Staline, le grand homme du communisme, et Khrushchev, Tito, sont les traîtres au communisme et s'opposent à leurs deux lignes, la pureté de la ligne chinoise et le révisionnisme soviétique que les Chinois dénonceront à tout va. Et la conséquence, elle est fantastique. Il y avait théoriquement un camp communiste international jusqu'alors, il n'y en a plus. Il y a une division formidable qui apparaît dès 1960 et qui sera aggravée par le soutien que les Chinois apporteront au non-alignement en empêchant que les pays qui accèdent à l'indépendance tombent du côté de l'URSS. Alors, conséquence interne aussi. Et conséquence interne qui va ravager et l'URSS et tous les pays communistes d'Europe. La conséquence interne, c'est que précisément... La société soviétique, après le 20e congrès, même si les propos tenus ont été limités, pour l'URSS, dans la conscience des individus, est née ce qu'on appelle la dissidence, véritablement, c'est-à-dire toute l'élite intellectuelle, ce qu'on appelle les chestidisiatniks, les soixantards, les hommes des années 60, qui ont décidé qu'on pouvait commencer à protester contre le système, que la voix de ceux qui n'étaient pas d'accord pouvait se faire entendre. Et le système a été incapable de les faire taire complètement. Ils se sont exprimés par des ouvrages. Bon, c'est Solzhenitsyn qui sort de là. C'est toute une littérature qui raconte l'épopée des camps.
L'affaire Pasternak.
Exactement. Ça rentre. Pasternak, Tchoukovskaya, Akhmatova. Toute la Russie récite le poème d'Akhmatova. où elle raconte, en fait, où elle se veut la voix de tous ceux qui sont, qui sont enfermés. Mmh. Il ne faut pas oublier que son mari a été fusillé. Mmh. Donc, et son fils a été dans un camp.
Donc, c'est très important. Khrouchtchev laisse cet espace de liberté, d'expression.
Oui, malgré... Il la laisse car c'est son arme de légitimité.
D'accord.
Il a été... Bon, il est très critiqué par le parti. Le parti, une partie de ses collègues oui. se rend parfaitement compte qu'il
a
ébranlé le système.
Les conservateurs et les réformateurs.
Exactement. Mmh. Ils se rendent compte qu'il a ébranlé le système. Et à partir de là commence, à partir de 1959, commence une sorte de préparation du complot contre Khrouchtchev qui aboutira en 1964 et qu'il a essayé de déjouer, car il est allé très loin. Je disais tout à l'heure, qui a décidé de ça? Tout ce que l'on sait, c'est que certainement l'idée d'un rapport secret avait été acceptée par l'ensemble de la direction du parti. Khrouchtchev a imposé de le lire et il l'a lu avec des amendements que l'on ne connaît pas encore. Il a certainement dû ajouter son propre piment à cette affaire. Et puis, voyant l'opposition, voyant que le parti se dressait contre lui, que l'appareil essayait de reprendre en main le pays, eh bien, il est allé très loin. Et en 1962, il a proposé une réforme du parti qui coupait le parti en deux, qui faisait un parti pour la campagne, pour le monde rural et un parti industriel. Ça voulait dire que ce qui était la base de la théorie de Lénine, l'unité du parti... Il le jetait par-dessus bord pour essayer, au fond, de s'appuyer sur les éléments qui pourraient le mieux le servir. Alors, dans toute cette affaire, c'est Lénine qui a revécu, car on s'est servi contre Staline de Lénine. On a publié les derniers écrits de Lénine, où Lénine, ce qu'on appelait le testament, où Lénine avait dit, avant de mourir, que parmi ceux qui pouvaient être ses héritiers, Staline était trop brutal et qu'il fallait l'écarter du pouvoir. Et les nationalités, font tous la fin de l'URSS, elle est inscrite là-dedans. Les nationalités de l'URSS qui vont vouloir proclamer leur indépendance en 1990, partout, elles s'accrochent au texte de Lénine que l'on publie justement après le 20e congrès parce que la question a été ouverte, c'est-à-dire où Lénine dit qu'on a mal agi avec les nationalités, que Staline d'ailleurs est trop brutal et que l'on ne peut pas, que le grand, c'est-à-dire le centre, ne peut pas opprimer les petits. Ça s'appliquait au système soviétique et ça s'appliquait aux relations entre l'URSS. Ça, ils ne le savaient pas, mais dans le raisonnement des hommes de 56, aux relations entre l'URSS et le monde communiste extérieur. Et ça explique que l'un des ferments de la décomposition du communisme aura été, il y en aura eu deux, la découverte par l'ensemble des sociétés communistes qu'on leur avait menti et que le communisme était oppressif, et deuxièmement, le ferment national. Parce que précisément, une des grandes leçons du rapport secret, c'est qu'on avait mal agi avec les nationalités et que le système communiste avait été un système oppressif sur le plan national. Et c'est par où le système va-t-il mourir en 1989? Il va mourir à la périphérie extérieure. Le jour où les Hongrois cisailleront les barbelés, c'est pas par hasard les Hongrois, c'est ceux qui avaient jeté par terre le système communiste, cisailleront les barbelés qu'ils avaient séparés de l'Autriche, il n'y avait plus de système communiste. Et Gorbatchev l'a compris. Donc vous voyez, ce 20e congrès, ça a été la liquidation d'un système qui a mis ensuite très longtemps à mourir, hein, 1956-1991, un laps de temps formidable sépare le grand choc de la fin du système. Mais on peut dire que dans les consciences, le système a vécu, et dans les rapports, et dans les consciences de chaque pays, et dans les rapports à l'intérieur du système des États communistes, il n'y a plus de système communiste, il n'y a plus de système communiste international.
Je reçois Hélène Carrière d'Encausse, nous nous retrouvons après une dernière pause. Thank you. Nous entamons la dernière partie de notre émission consacrée à l'année 1956. Je reçois Hélène Carrère-Dancos. 1956, la deuxième mort de Staline, c'est le titre de votre ouvrage paru aux éditions Complexe. Alors, dans cette affaire de 1956, il y a la personnalité centrale de Khrouchtchev. Khrouchtchev va être peu à peu évincé. Pourquoi ? Parce que ce sont les conservateurs qui, finalement, ont le dessus ou...
Il va être évincé. Bon, d'abord pour une raison. C'est que le système ne pouvait pas tolérer, je dirais, des initiatives presque individuelles. Dans la lecture du rapport secret, même dans la tonalité, disent les témoins, c'est-à-dire dans ce côté dramatique que Khrouchtchev a donné, on sortait des cadres habituels du système communiste. Et à partir de 1956, Khrouchtchev est allé de plus en plus loin dans la voie de cette déstalinisation que tout de même le parti entendait conserver dans des limites acceptables. La déstalinisation, qu'est-ce que c'était pour l'appareil du parti ? C'était de soulever, parce que le pays avait vécu sous pression, parce que la personnalité de Staline était tellement puissante que ses successeurs n'étaient pas sûrs de pouvoir contenir le pays après sa disparition, ils avaient compris qu'il fallait soulever un petit peu le couvercle de la marmite. Et c'est ça qu'ils avaient tenté de faire avec le 20e congrès. Le rapport secret était certainement allé déjà au-delà de ce qu'ils entendaient faire. Et là, la volonté de Khrouchtchev avait joué un rôle. Et ensuite, les conséquences avaient évidemment démontré qu'on ne pouvait pas soulever, qu'on ne pouvait pas faire des tout petits mouvements l'ont coupé du pays. Et permettait à ses adversaires de consolider leur thèse. Et puis, il a aussi déçu ceux qui comptaient sur lui. C'est-à-dire qu'il autorise la publication de Solzhenitsyn, mais en même temps, il est devant une exposition de peinture qui n'avait rien de particulièrement lui révolutionnaire. Il insulte les peintres, c'est la fameuse exposition où il dit « la queue d'un âne aurait fait aussi bien ». C'est-à-dire que cet homme qui apparaît comme l'espoir de la déstalinisation se montre aussi le plus conservateur et le plus adversaire de toute transformation du pays.
Il y a une ambivalence chez ce personnage et vous présentez l'endroit où il repose, il y a une statue.
Absolument.
Et cette statue est noire et blanche.
Exactement, c'est une statue tout à fait extraordinaire parce que c'est un personnage en effet, ça veut dire qu'on ne peut pas le juger, c'est le jour et la nuit.
Oui.
Et bon, son sort a été tout de même, c'est son sort terminal qui signale, je dirais, le changement qui est survenu en URSS. Jusqu'alors, quand on disparaissait du pouvoir, on disparaissait tragiquement. Et Beria a été fusillé. Hein. Vous me direz que Molotov n'a été ni fusillé ni rien du tout et qu'il a fini.
Alors qu'il sera condamné lui également comme d'autres.
Absolument. Et qu'il fit finir ses jours comme ambassadeur en Mongolie et il aura vécu jusqu'à près de 99 ans. Donc son sort n'aura rien eu d'épouvantable. Mais c'est tout de même avec Khrouchtchev qu'il y a un changement. Quand en 1964, il est destitué, il était parti tranquillement se reposer sur les bords de la mer Noire et c'est là qu'il apprend qui n'est plus rien. Et il est devenu une non-personne, ce qui est une nouveauté considérable dans le système soviétique. C'est là qu'on voit, si vous voulez, ce que signifie déstalinisation. C'est-à-dire cet homme le plus puissant, dont tous ses adversaires et ses concurrents se méfient. Il lui téléphone pour lui dire « c'est fini, tu n'es plus rien ». Il revient, on l'installe dans une datcha. Alors, il n'est pas prisonnier. Il est coupé du monde extérieur, il est une non-personne. Les gens ne vont pas le voir, mais malgré tout, quelques journalistes sont allés le voir. Il est vivant, il mourra de sa belle mort, un beau jour. Il dictera même des souvenirs dont la réalité a été quelque peu arrangée. Mais il a une non-existence, mais il vit dans le confort jusqu'à sa dernière heure. Et on peut dire qu'il a été l'artisan de cette transformation. C'est-à-dire que c'est tout de même, c'est un personnage... Et je pense que l'histoire soviétique n'a pas été juste avec lui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne lui rend pas cette justice, que c'est tout de même lui qui a eu personnellement la force de bousculer le système. Il y aurait eu un 20e congrès sans lui, incontestablement, mais le 20e congrès n'aura probablement pas comporté le rapport secret et n'aurait pas comporté cette volonté de le populariser comme il l'a fait.